L'épopée de Star Wars va s'enrichir d'un 7e volume dans quelques semaines et ça nous vaut d'avoir, si vous avez sorti donc à Palais Royal, au métro, vous avez vu sur le Louvre une gigantesque affiche avec Dark Vador, puisqu'il y a une exposition dans le Louvre, en particulier sur cette saga de Star Wars. Il y a une autre saga encore plus connue, mondialement connue, vieille de plus de 4000 ans et dont nous avons des parties aussi donc dans le Louvre, dans les tablettes donc de Mésopotamie. Elle est encore plus ancienne, cette saga, que les pharaons d'Égypte. Elle date de l'aube de l'invention de l'écriture. Et la Bible s'ouvre sur cette formidable saga en 4 volumes, racontant les efforts que Dieu fait pour créer l'humain, un humain digne de l'espérance de Dieu. Alors la première histoire de cette saga de la création, c'est celle d'Adam et Ève. La deuxième, c'est Caïn et Abel. La troisième, c'est celle de Noé. Donc nous la verrons cet après-midi avec les enfants de l'école biblique. Et la quatrième et dernière, c'est celle de Babel que je vais vous lire. Cette saga de la création se termine donc sur l'histoire de Babel. Et ça ouvre sur l'histoire d'Abraham. Et effectivement, c'est une nouvelle saga qui va commencer avec un autre style, avec d'autres personnages. Nous pouvons donc essayer d'entendre ce que ce texte, cette dernière histoire de la saga de la création nous dit pour être un peu à l'image donc de cet humain que Dieu espère. Alors c'est au chapitre 11 du livre de la Genèse, voilà ce qui est écrit. Toute la terre parlait une même langue avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Allons et faisons des briques et cuisons-les au four. La brique servira de pierre et le goudron servira de ciment. » Ils dirent encore, « Allons et bâtissons-nous une ville et puis une tour dont le sommet soit au ciel. » Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés à la surface de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les enfants des hommes. Et l'Éternel dit, « Voilà vraiment un seul peuple. Ils parlent tous la même langue et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aura plus d'obstacle à ce qu'ils auront décidé de faire. » Allons, dit Dieu, « descendons et puis mélangeons leur langage afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa à partir de ce point-là sur toute la surface de la terre et ils cessèrent de construire la ville. C'est pourquoi on appela cette ville du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel mélangea le langage de toute la terre et c'est là que l'Éternel les dispersa sur toute la surface de la terre. Alors pour laisser le temps à nos imaginations, à nos réflexions, nous pouvons chanter donc dans le psautier français, toujours le psaume 36, les 3 premières strophes de ce psaume qui chante la fidélité de Dieu pour nous faire avancer. Ô Seigneur, ta fidélité. Seigneur, nous voici devant toi pour recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Alors aide-nous afin que dans ce témoignage ancien que nous avons lu dans la Bible, nous puissions chacun découvrir ce quelque chose qui vient de toi. Tu nous as dit que tu nous donnerais ton Esprit Saint, c'est là notre espérance, pour qu'à l'occasion de ce temps passé ensemble, nous recevions une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance, et puis un amour véritable qui anime nos cœurs, nos paroles, notre espérance et nos actes. À chacun des quatre volumes, finalement, de cette grande épopée de la création dans la Bible, on voit l'humain partir, finalement, du meilleur qu'on lui a transmis dans la génération, dans l'histoire précédente. On le voit chercher, on le voit essayer, on le voit découvrir, on le voit se tromper et on le voit faire de belles choses. Et à chaque étape, Dieu donne, finalement, un coup de pouce pour que l'humain puisse avancer à travers ses échecs comme à travers ses réussites. Et c'est une véritable source d'encouragement pour nous, je trouve, cette grande saga de la création. Car comme les héros de chacune de ces histoires, nous pouvons tâtonner dans notre existence, nous avons le droit de nous tromper, Dieu ne nous abandonnera pas pour autant, mais il se débrouillera toujours pour en sortir quelque chose, pour avancer. Mais regardons comment cette saga, justement, avance à travers ces quatre histoires qui la constituent et ce que les personnages découvrent à chaque fois comme trésor dans ce cheminement. Et quel est finalement le moteur de cette progression malgré tout ce qui arrive. Car cette saga nous parle de la vie, comment elle devient belle et vraie. Or, l'être humain est ainsi fait qu'à chaque génération, chaque personne individuelle doit revivre en accéléré toute l'évolution de notre espèce, depuis l'apparition de la première cellule vivante sur notre planète, devenant un être de plus en plus capable, de plus en plus complexe, le but de cette évolution étant un humain aussi génial et bon que le Christ. Nous en sommes donc à mi-chemin. Alors comment faisons-nous pour évoluer ainsi en quelques années, 120 au maximum, alors qu'il a fallu plusieurs milliards d'années pour aller de l'apparition de la première cellule vivante sur notre planète jusqu'aux premiers humains, et encore, ils n'étaient pas non plus tellement finis, si vous voulez. Eh bien, cela se fait en partie tout seul, et c'est une merveille. Notre corps s'assemble progressivement dans le ventre de notre mère, et puis ensuite, nous grandissons peu à peu, nous découvrons de nouvelles capacités, comme de résoudre des équations du troisième degré de tête, ou d'autres choses. Tout cela est une merveille. Mais en fait, si nous étions déposés, bébés, sur une île déserte, il y a peu de chances que nous vivions bien longtemps. En tout cas, nous serions sans doute très limités dans notre développement, incapables même de parler le moindre mot, ce que fait assez facilement quand même un enfant de tout bas âge. Alors cette incroyable évolution que nous connaissons pour faire déjà ce que nous sommes aujourd'hui, ce qui est déjà pas si mal, eh bien ça se fait donc par l'éducation qui nous permet de monter sur les épaules des générations passées, de progresser. Et donc nous n'avons pas tous les dimanches matins à réinventer la roue et le wifi. Il y a plein d'autres choses comme le langage que nous n'avons pas non plus à inventer. Et c'est une merveille. La Bible, avec cette épopée en 4 volumes de la création, nous invite à vraiment bénéficier de cette expérience des générations passées pour gagner du temps dans notre propre évolution et pour aller peut-être encore un peu plus loin, un peu mieux encore, puisque c'est le défi qui est donné à chacun, qui est donné à chaque génération, d'aller plus loin que la précédente dans cette évolution de l'humain tel que Dieu l'espère. Alors Dieu nous propose un projet dans la première de ces histoires et il nous met en garde contre un danger avec Adam et Ève dans le paradis. Le projet, c'est de cultiver et de garder le jardin de la création, nous dit le texte. Le garder, c'est-à-dire le conserver en forme, c'est déjà un beau programme. On peut y réfléchir, nous y réfléchissons. Mais Dieu nous donne plutôt comme projet plutôt de garder la création en la cultivant, nous dit le texte. C'est-à-dire de ne pas garder seulement le résultat en l'état, mais de garder le monde en évolution et de le faire librement selon notre propre créativité, de garder l'évolution du monde. Et nous, les humains, nous sommes encore mieux que vivants, finalement. Nous sommes appelés à être source d'évolution. Alors c'est normal qu'il faille garder la création en évolution, car seul ce qui s'adapte et évolue est vivant finalement, et a une chance de rester vivant longtemps, car elle pourra s'adapter. Donc nous sommes finalement un véritable trésor pour l'avenir de la création, en étant capable donc de la faire évoluer. Mais alors le danger que nous apprend cette première histoire est directement lié à cette puissance qu'a l'humain. Nous recevons donc la capacité et la mission d'être créateurs nous-mêmes. Alors de là à se prendre pour Dieu, il n'y a qu'un pas. Se prendre pour Dieu, c'est la source de bien des catastrophes dans le passé, dans le présent, et notre monde en souffre. Et puis se prendre pour Dieu, ça rend malheureux en fait, parce que ce n'est pas vrai. Comme quelqu'un qui se prend pour Napoléon risque d'être malheureux quand il découvrira que non, il n'est pas l'empereur. Alors c'est oublier Dieu comme étant spécialiste des impulsions décisives pour avancer. Donc oui, on peut se sentir créateur avec cette première histoire, mais ne pas se prendre pour Dieu. Alors le deuxième épisode finalement de cette grande saga, c'est l'histoire de Caïn et Abel. Vous l'avez connaissé parce qu'on l'a vu il n'y a pas très longtemps. Et donc à travers les réussites et les erreurs de la génération passée, les deux frères ont parfaitement intégré finalement les découvertes de Adam et Ève à l'histoire précédente. Caïn et Abel ont effectivement chacun leur projet pour faire évoluer le monde, l'un en cultivant des fleurs, des arbres et des fruits, des patates peut-être aussi, l'autre en soignant des animaux, c'est très bien. Ils ont chacun aussi appris à ne pas se prendre pour Dieu et donc chacun rend un culte à Dieu, à sa façon, et donc ils reconnaissent que c'est bien l'Éternel, Dieu, qui est à l'origine de ce grand mouvement d'évolution. C'est très très bien. Mais il n'y a pas que le monde à faire évoluer, eux aussi doivent évoluer et donc à leur génération, ils doivent découvrir quelque chose sur l'humain. Sinon, là aussi il y a un danger, si on n'avance pas, on recule. L'histoire d'Adam et Ève nous apprend que nous avons une mission et un Dieu. L'histoire de Caïn et Abel nous apprend qu'en plus de cela, nous avons des proches autour de nous et que cela aussi est important pour un être humain et que ça aussi, il faut apprendre à le gérer. Et donc la mission nouvelle et supplémentaire, c'est se sentir gardien de son frère. Et le danger, c'est la jalousie, c'est de ne pas se parler, c'est de s'entretuer. Alors le troisième épisode de cette saga, c'est l'histoire de Noé. Noé, nous dit le texte, est un homme juste marchant avec son Dieu et il est capable de se lancer dans des projets incroyables pour garder la création. Et puis il a aussi une vraie bonne famille, donc à travers les réussites et les erreurs des générations passées, Noé a tout retenu finalement des deux étapes précédentes de la saga de la création. Son défi à lui, c'est finalement de se mettre à la place d'Abel et de découvrir comment faire face à la violence et à la méchanceté de l'humanité. La première piste qui est explorée dans cette histoire est celle de l'élitisme. On va garder seulement les humains qui sont parfaits et puis éliminer tous les autres, comme avec une gigantesque chasse d'eau. Mais finalement, l'évolution que propose ce troisième épisode de la saga est tout autre que cette première solution. C'est de comprendre que tout humain a sa part de mal, mais aussi de bien, et que même s'il nous prend envie d'éliminer celui qui a une part de mal, il est mieux de faire alliance avec chaque personne pour valoriser le meilleur qui est aussi dans cette personne. Le quatrième épisode de la saga de la création, c'est l'histoire que je viens de vous lire, l'histoire de la ville et de la tour de Babel. L'humanité, encore une fois, a tout compris, tout reçu des épisodes précédents. Et nous voyons alors une humanité réconciliée, unie, avec un beau projet, là encore, de construction d'une ville, et donc de services mutuels, de mise en commun des moyens, des échanges, une parole qui peut circuler dans la ville. Et au centre de ce projet commun, il y a une véritable spiritualité, une élévation qui va, nous dit le texte, jusqu'à toucher le ciel. Et c'est ainsi qu'il cherche à se donner un nom, c'est-à-dire il cherche à donner du sens à ce qu'ils sont, à ce qu'ils font. Et c'est très bien. Sur le papier, tout est là. D'ailleurs, il n'y a pas un mot dans le texte que nous avons entendu pour dire que ce que font les humains serait mauvais. Au contraire, Dieu descend pour voir et il est surpris en bien. Il dit qu'avec cette base-là, maintenant, il n'y aura rien d'impossible avec ce qu'ils auront décidé de faire. Et c'est là un beau compliment, car Dieu veut un être humain qui soit capable de faire des projets et de les accomplir. Cette créativité, cette élévation, cette paix entre eux qui les caractérise est une sacrée force. Mais puisqu'il y a un quatrième volume à cette saga de la création, c'est qu'il manque une dernière étape, une étape peut-être la plus délicate et la plus décisive, car c'est elle qui permettra d'entrer dans la saga d'après, celle d'Abraham qui est décrit comme ami de Dieu et bénédiction pour une multitude de peuples et de générations. Alors quelle est la découverte de Babel, de cette dernière étape de la création de l'humain tel que Dieu l'espère? En fait, il y a deux nouveautés dans cette histoire de Babel. La première, c'est de faire quelque chose de cette force que donne le fait d'être en paix avec les autres et d'avoir un projet commun. Et donc, c'est de se mettre en route pour explorer, pour aller vers d'autres personnes, d'autres peuples. La seconde est de ne plus seulement s'unir en étant identiques, mais en découvrant une autre forme d'unité, à un autre niveau. Alors, Dieu ne démolit pas la ville, en fait, et donc, puisque la ville est bonne, mais il arrête la construction pour les envoyer à partir de ce point-là vers tous les coins de la terre. Il les envoie en mission pour porter, finalement, peut-être, les leçons qu'ils ont apprises à travers les différentes étapes. La ville est donc un point de départ, c'est une prise d'élan. Il y a donc un temps pour bâtir la ville, et puis un temps pour la quitter. Il y a un temps pour prendre des forces les uns avec les autres et un temps pour investir dans une exploration peut-être plus personnelle. Un temps pour être en groupe en se serrant les coudes et un temps pour aller chacun son propre chemin vers d'autres personnes inconnues, d'autres pistes, d'autres inventions. Il y a aussi un temps d'élévation par nos propres forces comme dans la tour, un temps pour se laisser surprendre aussi par l'Éternel, qui descend et qui nous donne une impulsion nouvelle, inconnue de nous. Après ce temps de dispersion, chacun a son œuvre propre et il pourra peut-être après y avoir un nouveau temps pour se rassembler, pour se ressourcer, pour reprendre des forces tous ensemble. Et donc la vie humaine est comme un battement de cœur finalement, avec une diastole et une systole. La vie humaine est comme une respiration avec quelque chose d'invisible qui vient de Dieu et qui nous inspire pour nous laisser ensuite avoir une expression personnelle. En effet, la tour n'est pas démolie non plus. La tour n'est pas utile pour aider Dieu à descendre. Il était déjà descendu avant sans la tour. Mais la tour est comme une façon de se préparer soi-même. C'est le rôle de la philosophie, de la théologie, de nos cultes, de notre prière. Et cela aussi va vers Dieu et nous prépare à mieux le recevoir, plus profondément, plus authentiquement. Mais nous voyons dans cette saga, finalement, que la philosophie, la théologie, le culte, la prière, la tour ne suffit pas, finalement. Si le secret de la vie humaine était simplement de la sagesse, il suffirait d'un mode d'emploi pour la vie humaine, comme pour une simple machine. Fais ceci, à tel moment, fais cela. Non. Nous voyons dans cette grande saga de la création que c'est beaucoup plus compliqué que d'avoir le mode d'emploi de la vie présente. Nous voyons qu'étape après étape, ce sont de nouvelles dimensions qui s'ouvrent, des dimensions inconnues qui n'existaient pas avant. Et donc la création de l'humain, ce n'est pas une simple leçon à apprendre, ce n'est pas une simple sagesse à développer, ce n'est pas une simple solidarité à avoir, c'est une évolution avec de multiples étapes décisives, nouvelles, inconnues. Alors de même, il est bon de travailler sur ce qui nous rassemble, et puis il y a un temps pour apprendre que nous sommes différents des uns des autres. Alors c'est une évidence sur le papier, mais en fait ce n'est pas si facile à doser en réalité. Cela demande une grande finesse, un grand respect, une grande bienveillance pour les autres, et donc de se savoir en sécurité. Et c'est là que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu est une grande force, de ne pas se sentir en danger par la différence de l'autre. D'une seule voix, le peuple de Babel se disait « Nous nous ferons un nom afin de ne pas nous disperser aux quatre coins de la terre. » Alors c'est un beau projet d'union, de sens, de recherche de sens. Est-ce que quand chacun s'élancera aux quatre coins de la terre selon son projet personnel, cette idée de se faire un nom commun, un nom unique à tous, et de ne pas se disperser, est-ce que ce beau projet est brisé? Eh bien, en fait, non, pas du tout. Car quand chacun s'élancera, chacun dans sa propre direction, ils seront alors unis par leur dynamique même. Ils seront unis par la force qu'ils auront prise ensemble. Ils seront unis par cette impulsion de vie qui vient de Dieu. Ils seront tous à leur façon un explorateur, un entrepreneur vivant avec authenticité pour porter son fruit en son temps. Et donc ils auront maintenant une union beaucoup plus profonde, beaucoup plus vraie qu'avant. C'est ainsi que l'Église chrétienne peut être unie dans un premier temps en cherchant par exemple une union de dogmes communs, une recherche d'une confession de foi avec des règles communes, et puis un rassemblement physique commun, comme nous en avons de temps en temps ici. C'est comme la construction de la ville et de la tour, avec une seule langue, en cherchant à se faire un nom, autrement dit, en cherchant à donner du sens à ce que l'on vit, à ce que l'on espère, à ce que l'on croit. Mais ensuite, il est possible d'évoluer grâce à Dieu, grâce à une union plus profonde, grâce à quelque chose de particulier qui est de l'ordre d'une rencontre avec Dieu, et puis d'évoluer vers une union plus profonde et plus vraie, où ce qui nous rassemble, c'est d'avoir un élan, chacun son élan personnel, sincère, authentique, et d'être à sa façon, finalement, un explorateur, un entrepreneur, un missionnaire, un secouriste, un savant, un artiste, dans son propre chantier. Et ce qui unit alors chacun, c'est Dieu lui-même. Et c'est une façon d'être qui est celle de l'humain que Dieu espère. C'est ainsi que dans notre société, nous pouvons à la fois porter des noms collectifs qui rassemblent plusieurs personnes, comme parisiens, français, européens, canadiens, chrétiens, oratoriens, musulmans, hommes, femmes, que sais-je, et tant d'autres noms que nous partageons avec quelques autres personnes, mais que nous avons aussi chacun notre nom propre, notre personnalité. Et le fait d'être nous-mêmes est parfaitement digne, c'est même essentiel, et cela ne retire rien aux autres, bien sûr. C'est ainsi qu'Abraham et Sarah, dans la suite, dans l'autre saga, entendront un appel qui les met en mouvement, et leur nom propre évoluera finalement à travers leur cheminement, à travers leur découverte, leur tâtonnement et leur rencontre avec Dieu. Et ils passeront d'Abraham à Abraham, de Sarai à Sarah, mais c'est là une autre histoire, une autre grande, magnifique saga qui parle aussi de nous. Alors quel est le moteur finalement de cette évolution pour que l'homme devienne enfin l'humain que Dieu espère ? Un des principaux moteurs finalement de l'évolution dans cette histoire, pour franchir une étape après l'autre, c'est la sincérité de ces héros, c'est leur audace. Alors oui, ils prennent des initiatives, ils osent, parfois même ils osent exagérément, mais ils se bougent avec sincérité. Et puis il y a un autre moteur à cette évolution, et donc c'est un moteur hybride finalement, cet autre moteur c'est Dieu. Que le héros soit coupable comme Adam et Ève ou Caïn, que le héros soit un bon disciple comme Noé ou comme l'humanité de Babel, dans tous les cas Dieu descend pour voir. Il s'intéresse à nous, il nous prend tel que nous sommes, il se laisse surprendre par ce que nous avons fait et il va ensuite lui-même faire tout ce qu'il peut pour tirer le meilleur parti possible, aussi bien de nos succès que de nos échecs. Et alors l'humain est capable de prodiges quand il y a ce moteur hybride, traversant ses erreurs, explorant ses limites, avançant plus loin, avançant plus haut, par la sincérité, par l'audace et par l'étincelle divine. Amen.